réplique De Gaulle, Pétain, la France, avec Paul Thibault et Éric Zemmour. La France, décidément, n'en a pas fini avec Pétain. Lors de son itinérance mémorielle, organisée pour célébrer le centenaire de la fin de la Grande Guerre, Emmanuel Macron a déclaré « Le maréchal Pétain a été, pendant la Première Guerre mondiale, aussi un grand soldat. C'est une réalité de notre pays. C'est aussi ce qui fait que la vie politique, comme l'humaine nature, sont parfois plus complexes que ce qu'on voulait croire. » Et il a ajouté, on peut avoir été un grand soldat à la Première Guerre mondiale et avoir conduit à des choix funestes à la Seconde. En dépit de cette précision, les propos du chef de l'État ont déclenché un incendie. Honorer Pétain, c'est nier la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs, a jugé le président du Conseil représentatif des institutions juives de France. François Hollande, tout comme Jean-Luc Mélenchon, ont tweeté leur indignation. Des historiens ont estimé qu'un président ne devrait pas dire ça. Le journal Le Monde pouvait donc conclure « Macron trébuche sur le maréchal Pétain ». Avant d'en venir au sujet principal de notre discussion, à savoir les choix respectifs du général de Gaulle et du maréchal Pétain pendant la Deuxième Guerre mondiale et la place qu'il convient d'accorder à l'un et à l'autre dans la mémoire de la nation, je voudrais demander à mes deux invités, l'ancien directeur de la revue Esprit, Paul Thibault, et le journaliste Éric Zemmour, qui publie Destin français, quelles leçons ils tirent de cet épisode médiatico-politique. La querelle faite à Macron est-elle légitime? Et que révèle-t-elle, Paul Thibault?
Ça révèle probablement une passion de notre époque à se vouloir pur aux dépens des précédentes. Enfin, nous jugeons le passé. De quel droit le passé d'où nous sortons? Il y a quelque chose là d'absolument illégitime et c'est malheureusement symptomatique d'une espèce de maladie, je dirais pas mentale, mais morale du monde où nous vivons.
Donc vous pensez que cette querelle faite à Macron est illégitime, que son propos ne méritait pas une telle polémique.
Enfin, en 68, pour le 50e anniversaire, le général de Gaulle a rendu hommage à Pétain sans scrupules et sans réticence. Il parlait d'autre chose.
Oui, il parlait d'autre chose, en effet, de même d'ailleurs que Jacques Chirac, un peu plus tard, qui a dit, je crois, que Pétain avait couvert de sa gloire le choix funeste de l'armistice et le déshonneur de la collaboration, mais cette gloire, elle avait été acquise pendant la Première Guerre mondiale et Jacques Chirac ne la contestait pas. Éric Zemmour, même question.
Votre discussion commence bien parce que je suis au mot près d'accord avec ce que vient de dire Paul Thibault. L'arrogance de notre époque de juger en permanence les hommes du passé est effectivement scandaleuse. Et le problème de Macron, c'est que, vous savez, il dit, c'est comme l'horloge qui donne toutes les heures, donc il y a parfois l'heure est juste. Il a donné la bonne heure, et puis le lendemain, il va dire le contraire. Comme un jour, il dit on ne célèbre pas la victoire de la France en 18, et puis après le lendemain, il dit mais il faut pas oublier que nous avons une grande victoire. Il dit tout et son contraire. C'est ça le problème de Macron. Mais sur le fond, sur la phrase que vous avez citée, il a évidemment raison. Et je pourrais même commencer un début de polémique en disant que le Pétain de 16 et de 17 à Verdun, qui arrête les Allemands et qui restaure le moral d'une armée française en piteux état, est en vérité... Les caractéristiques morales et mentales sont les mêmes en 40, et on en parlera après, j'imagine. Mais oui. C'est la même logique de personnalité. Vous savez, Foch et Mangin en 16 le traitaient déjà d'attentiste.
Oui, c'est vrai.
Et donc, en 40, il sera aussi attentiste.
On le traitait d'attentiste, mais en 18, il voulait que les troupes pénètrent en Allemagne, et c'est l'état-major qui l'en a empêché.
C'est Foch.
Effectivement, c'est Foch.
C'est Foch qui l'en empêche. Oui. Pétain dit, c'est la seule fois où j'ai pleuré de ma vie. Oui. Et il avait tout à fait raison.
Et il avait
raison. Fallait évidemment rentrer dans Berlin. C'est Foch qui l'arrête, c'est Clémenceau qui l'arrête, et on oublie toujours les Anglo-Américains, qui ne veulent pas le grand retour de la France. Vous savez, c'est le souvenir qui hante les Anglais, c'est le souvenir de Davout, le maréchal de Napoléon, qui rentre à Berlin en 1806 après la victoire d'Iéna, et il ne voulait pas recommencer ça.
Et si les troupes françaises étaient entrées en Allemagne, et peut-être à Berlin, la légende du coup de poignard dans le dos n'aurait pas pu fleurir.
Exactement, ils n'ont pas vu un soldat français, les Allemands.
Ils n'ont pas vu un
soldat français. Donc c'est tout à fait normal qu'ils aient pensé ça.
Donc,
Vous êtes rentré invaincu des champs de bataille, a dit le président
de la République, Hébert, aux soldats allemands.
Hébert.
Mais bien sûr.
Alors, pour aller dans votre sens, il me semble que si Pétain a pu apparaître comme un sauveur pour les Français en 40, c'est précisément parce qu'il a été le vainqueur de Verdun. Et j'ajouterais aussi que c'est un des paradoxes du devoir de mémoire que d'être aujourd'hui un vecteur d'oubli, parce qu'on voudrait effacer Pétain de la photo.
Oui, comme Trotsky avec Staline.
Oui, effacer Pétain de la photo parce que, effectivement, au nom de ce qu'il a fait en 1940, et j'ajouterais encore que ça peut aller plus loin, parce que dans une polémique avec vous, Paul Thibault, c'est le grand rabbin de France, Corsia, qui a dit qu'il y avait encore un problème en France, aujourd'hui, du fait que le portrait de Laval était accroché sur un mur du ministère de la Justice et celui des Pétains au ministère des Armées. Comme s'il valait enlever les portraits pour bien prouver que la France en avait fini avec ce passé.
C'est une logique stalinienne qui enlevait Trotsky. Bah oui, c'est la même chose.
Je ne sais pas. En tout cas, c'est une logique étrange qu'une mémoire...
Vous savez, c'est les photos où il n'y avait pas Trotsky, parce qu'avant, il y avait Trotsky auprès de Lénine, et Staline a fait effacer toutes les photos.
Et c'est dans le livre du Rire et de l'Oubli qui commence magnifiquement cette photo où Clémentis et Gottwald et Clémentis sont sur le balcon d'un immeuble d'un grand édifice de Prague, et Clémentis met sa petite chapeau sur la tête de Gottwald, et il est effacé de la photo, donc il ne reste que la toque de Clémentis pour rappeler son souvenir. Bon, mais alors maintenant, venons-en au sujet qui fâche, Éric Zemmour. Nous sommes en 1940, donc, enfin disons 40-45, et sur quels éléments, Éric Zemmour, vous fondez-vous pour ressusciter la thèse exposée par Robert Aron en 1954 de l'épée et du bouclier, c'est-à-dire d'une espèce de partage des tâches entre De Gaulle qui continue la guerre et Pétain qui signe l'armistice et s'engage dans la voie de la collaboration pour protéger les Français. Éric Zemmour.
Écoutez, j'ai lu et relu Robert Aron récemment. Ce livre est complètement, dénigré à tort. Ce livre est remarquable, surtout dans le contexte de l'époque, il n'y avait pas encore la sortie des archives, etc. Il n'est pas du tout pro-pétainiste. C'est tout à fait faux. Il est très sévère pour les erreurs de Pétain. Il n'est pas du tout anti-gaulliste. Tout ça est de la mythologie. Et j'ai relu Paxton, et j'ai relu toute une historiographie qui est aux ordres de Paxton. Je continue à penser, après une mûre réflexion, on va en parler...
Ordres de Paxton, disons, influencés par Paxton.
C'est plus qu'influencés. Non, mais ils ont peur de lui. Je les vois, moi, je débats parfois. Ils ont peur. Ils ont peur de transgresser. Moi, c'est bien, je ne suis pas un historien universitaire, donc c'est parfait. Je peux transgresser Paxton. Ça ne me gêne pas. En plus, quand je vois ces contradictions, j'imagine qu'on va en parler. Maintenant, je pense effectivement que il y a la thèse du glaive et du bouclier est la plus pertinente. Non pas que, évidemment, ils se soient mis d'accord, vous avez bien compris, je n'ai jamais dit ça, et d'ailleurs Robert Aron ne dit pas ça, évidemment. Mais je pense qu'effectivement, il y a une logique, c'est-à-dire que Pétain, lui, a une conception traditionnelle. Il faut essayer de sauver ce qui peut être sauvé, c'est-à-dire sauver une partie du territoire, l'État, l'administration. Il faut bien comprendre que nous sommes, il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque. Les élites françaises ont l'impression que la France va disparaître. Je dis bien disparaître. C'est-à-dire qu'il y a un pays qui ne fait plus d'enfants depuis le 19e siècle, un pays qui a perdu 1,5 million de ses membres à la guerre de 14 et qui ne peut pas se permettre, c'est ce que dit Pétain à l'ambassadeur américain quand il discute avec lui, il ne peut pas se permettre de recommencer de perdre 1,5 million d'hommes. Et vous savez, Raymond Aron lui-même a dit « La France avait manqué de mourir de sa victoire de 18 et elle a été ressuscitée par sa défaite. » Parce qu'il faut le dire, l'armistice qu'on critique tant aujourd'hui, en fait, ça a été une erreur d'Hitler. Et comme nous avons fait l'erreur d'accorder l'armistice aux Allemands le 11 novembre 18 et de ne pas rentrer dans Berlin, Hitler a commis la même erreur en nous accordant l'armistice et en ne fonçant pas sur la Méditerranée et sur l'Algérie, etc.
Alors, Paul Thibault.
Ça, c'est une stratégie post-factum. Il fallait y arriver en Algérie, enfin.
Oui, bon, ils auraient arrivé très facilement.
Au moment du procès Pétain, précisément, De Gaulle dit à De Boissieu, qui est son chef du cabinet militaire ou quelque chose comme ça, que si le maréchal, sans le maréchal Pétain, la flotte et l'Empire auraient continué le combat. Et on aurait eu bien d'autres atouts que ce que l'on a eu, parce que c'est avec des petits morceaux, avec des bouts d'allumettes, que De Gaulle a reconstitué sa légitimité sans base matérielle. Enfin, il y a eu le coup d'éclat de Leclerc et compagnie en AEF, qui est un truc déjà miraculeux, mais il y a eu que des choses comme ça. Il y a eu l'échec de Dakar, il y a eu Merzel Kébir avant, etc. C'était quand même...
Merzel Kébir, c'est-à-dire la destruction
de la flotte française,
par les Anglais.
Par les Anglais, donc, voilà. Qui avaient quand même proposé aussi à la marine française
qu'elle aille
en Angleterre ou aux Antilles.
Hors de portée des Allemands, en tout cas.
Hors de portée, voilà, c'est ça. Et c'est après le refus que Churchill s'est résolu à bombarder la marine française.
Donc on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de rapport entre les la stratégie, de rapport et même de contradiction entre la stratégie de De Gaulle, qui était la stratégie de participation à la guerre. Je fais la guerre, en définitive, pour reprendre Clémenceau, c'était sa première idée. Je ne dis pas la seule idée, c'était la première idée, l'idée centrale. Lui voulait faire la guerre et l'autre ne voulait pas la faire. Il y a une contradiction. Il y en a un qui démobilise les Français et l'autre qui les unir les Français dans la lutte. Dans la participation au combat contre Hitler. Alors on peut. Alors les effets secondaires sont favorables du côté de Pétain et on peut en trouver. En particulier, c'est vrai que l'existence de la zone sud a été une porte de sortie pour pas mal de Juifs et une façon au fond, ce qui a été leur protection en France a été de se fondre dans la population française.
Mais attendez, on traite l'histoire des Juifs, c'est autre chose. On est dans les effets secondaires.
Voilà. On n'est pas dans la stratégie centrale de Pétain. Et aussi, je cite aussi De Gaulle. Enfin, il s'est trompé. Au départ, il a fait un mauvais diagnostic, en pensant que la guerre allait s'arrêter. S'il avait été lui-même, il aurait changé quand il s'est aperçu qu'il s'était trompé. Il ne l'a pas fait, il s'est enfoncé dans son erreur. Au fond, je m'arrête, la phrase de De Gaulle contre Vichy, « Ils se nourrissent de la défaite ». C'est ça la phrase centrale. Ils se sont nourris de la défaite.
Non. Moi, j'aurais des choses à dire, mais Éric Zemmour et ensuite moi.
D'accord.
Zemmour.
Non, moi ce que je pense, c'est que ça, c'est une réflexion a posteriori. Je répète qu'en 1940, la France est obsédée par sa disparition corps et bien. C'est-à-dire que Hitler compte démanteler la France, la partager, que Pétain et les élites françaises craignent la ce que Pétain appelle la polonisation, c'est-à-dire le partage de la France avec des gaulaïteurs allemands, qui auraient là, on aurait vu la différence de traitement et pour les Français et pour les Juifs, qu'ils soient Français ou étrangers, on aurait vu la différence de traitement subie par les gaulaïteurs. Enfin, il y a, si vous voulez, le fait que les Français se méfient à juste titre des Anglais. Je dis à juste titre parce que il faut encore revoir dans le rétroviseur. Depuis 1919, depuis les négociations du traité de Versailles, depuis l'entre-deux-guerres, les Anglais ont joué contre nous. Les Anglais ont soutenu l'Allemagne pendant 20 ans. Ils nous ont empêchés de prendre une partie du territoire allemand. Et donc, quand arrive 40, les Français se disent, les Anglais vont encore traiter avec les Allemands, puisqu'ils le font depuis 20 ans.
Mais ils se trompent là, puisqu'il y a Churchill quand
même. Ils se trompent parce qu'il y a Churchill.
Bah oui,
sauf
mais il y a Churchill.
Toutes les élites anglaises, oui mais ils ne pouvaient pas savoir. Pendant toutes les élites, toutes les élites anglaises étaient prêtes de renverser Churchill.
Oui mais il l'a su un moment.
Mais après... Je vous parle de 40, là.
Oui, mais
d'accord.
Bon.
Et en 40, ils sont persuadés que les Anglais vont encore les rouler dans la farine, qu'ils vont traiter avec les Allemands comme ils ont fait depuis 20 ans, à leur détriment. Et que, je répète, la France ne peut pas se permettre une deuxième fois de perdre 1,5 million de morts. C'est ce que dit Pétain, c'est ce que dit Laval.
Simplement, je répète mon objection. Quand ils se sont aperçus que cette analyse qui est compréhensible était fausse, ils n'ont pas changé de direction.
Mais ils n'allaient pas reprendre. Mais ils ne pouvaient pas, ils ne voulaient pas reprendre la guerre. Ils ne voulaient pas, c'est pour ça qu'ils ne déclarent pas la guerre à l'Angleterre après Marcel Kébir, et c'est pour ça qu'ils ne déclarent pas la guerre à l'Allemagne non plus.
Alors, je voudrais intervenir maintenant parce que, revenir à la thèse de l'épée et du bouclier, Pétain ne veut pas la guerre et il veut protéger les Français. Mais il ne veut pas protéger tous les Français. Parce que, si vous voulez, au cœur de cette révolution nationale qu'il a voulu instaurer dans la défaite, il y avait l'idée de l'anti-France. L'anti-France avait mené la France au désastre. Il fallait maintenant s'en débarrasser. Et c'était pas seulement les Juifs.
Non, non.
C'était l'anti-France les selon Maurras. C'était les francs-maçons, c'était les étrangers, c'était les métèques.
Et les protestants.
Les quatre,
et
les protestants, pardon. C'était les protestants, les quatre États confédérés. Donc, il y a eu une espèce de hâte, de précipitation du régime de Vichy à, évidemment, évacuer...
Oui.
Tous ces gens dangereux, et c'est quand même là que la thèse même du bouclier ne fonctionne pas,
et que
le fossé se creuse entre Pétain et De Gaulle.
Alors,
Éric Zemmour.
Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je vais vous répondre. D'abord, pourquoi il faut bien comprendre là aussi qu'on vient après un siècle d'histoire. Depuis Napoléon, à chaque fois qu'un régime a perdu la guerre, il est tombé. Napoléon est tombé en 1814 et en 1815. Napoléon III est tombé en 1870. Donc il apparaît aux contemporains de 40 qu'il est tout à fait normal que la République tombe en 1940. Parce qu'elle a perdu la guerre. Et
oui,
que il y a même un texte, je vous ai cité dans mon livre, de François Mitterrand, jeune, qui dit « Nous ne sommes pas responsables de 150 années d'erreur. » Pour les contemporains, et pas seulement à l'Action française, c'est la Révolution française qui est le prix à payer pour cette défaite. Renan a dit déjà la même chose en 1870.
Ouais, mais...
Et ça ne vous choque pas.
Non, mais...
En 1870, on parle aussi de réforme intellectuelle.
Pas forcément les protestants, les juifs et les francs-maçons.
Attendez.
Quand même.
Eh ben, en 1815, il y a eu une terreur blanche contre les bonapartistes et contre les républicains pour l'instauration du régime de Louis XVIII. Et c'est exactement la même chose. Les juifs, les protestants et les francs-maçons sont associés à la République et ont été associés à la République par les leaders républicains même. Je pourrais vous citer des discours de Waldeck-Rousseau, des discours de deux autres qui ont vanté... Mais je ne plaisante pas.
Mais
ils disent que les républicains sont comme les protestants, sont comme les juifs. N'oubliez pas qu'il y a une politique anticatholique et anticléricale féroce de la part des républicains. Donc oui, vous avez raison, c'est la revanche. Mais c'est la revanche dans le cadre d'une guerre civile française permanente deux siècles.
Oui, mais encore une fois, se servir de la défaite pour, effectivement, vider la querelle, pour exercer sa vengeance, ce n'est pas protéger les Français, puisqu'on divise la France entre la France et l'anti-France.
Louis XVIII a fait la même chose. Et c'était un modéré. Attendez.
Sous l'égide de Hitler, c'est un peu différent quand même.
En 1870, mon cher Alain, en 1870, la République, vous m'entendez, la République vire la plupart des juges du Second Empire. Vous croyez qu'ils ont rigolé, la Troisième République, quand ils sont arrivés après le Second Empire? Vous croyez qu'ils n'ont pas pris leur revanche sur les dignitaires du régime précédent? Mais vous plaisantez.
Mais vous voyez bien que cette revanche n'a pas le même sens.
Parce qu'il y a Hitler.
Oui, et parce que ça met, dans cette France occupée, les francs-maçons, les protestants et les juifs dans une situation d'insécurité maximale. Leur vie est en danger, et on l'a bien vu avec la déportation.
À l'époque, leur vie n'est pas en danger. C'est pas ce qu'on considère à l'époque, n'oubliez pas. Et deuxièmement, essayez de ne pas faire d'anachronisme. Pour eux, ce sont ces catégories-là qui ont, en dirigeant la République, conduit à la catastrophe de la défaite. La catastrophe, ce n'est pas le régime de Vichy, c'est la défaite. Et De Gaulle lui-même dit, c'est pour la première fois, nous ne sommes pas comportés en grande puissance. Et je finis là, je laisse M. Thibault, à Londres, vous savez qu'il y a 90% des gens qui rejoignent Londres sont de l'Action française, ils pensent la même chose.
Sauf que De Gaulle a accueilli René Cassin et il a dit j'ai autour de moi des juifs et des métèques. Toute la France avait lui.
Et Georges Boris, même chose. Il n'y a que deux catégories de Français, ceux qui se couchent et ceux qui ne se couchent pas.
Oui, mais enfin, ils n'ont rien dit sur le statut des juifs. De Gaulle ne parle pas des juifs pendant toutes ses mémoires de guerre. Et Londres ne fait rien pour sauver les juifs. Arrêtez,
il n'y a pas que Londres, figurez-vous. Il y a tous ceux qui combattaient contre Hitler, Roosevelt, Churchill ont été silencieux parce que effectivement ils étaient obsédés par l'idée de ne pas faire la guerre des Juifs et de ne pas tomber dans le panneau
de la propagande des autres.
Alors comme dit Mendès à propos de Gaulle, l'antisémitisme lui était étranger, mais il savait que l'antisémitisme existait. Mais de toute façon, l'analyse que vous faites, elle est complètement décalée historiquement, en particulier concernant les catholiques, si vous voulez. Vous oubliez une petite chose qui est la condamnation de l'Action française et l'espèce de réinterrogation de soi du monde catholique français dans l'entre-deux-guerres à partir de Pie XI. Et ça a été une chose tout à fait importante. La démocratie chrétienne, le MRP, etc. sont nés de tout ça. Et la réintégration des catholiques dans la République était quelque chose qui était en cours, si vous voulez.
J'ai pas dit le contraire.
Alors donc, les gens qui ont cru prendre leur revanche, il y en a eu des imbéciles catholiques, si vous voulez, prendre leur revanche de la saisie des biens de l'Église à travers les biens juifs. Ce sont des crétins, si vous voulez, qui étaient une minorité complètement décalée dans le monde catholique. Alors là, vous comprenez, Pétain, il a fait sa politique de repli sur l'essentiel national. Je crois que c'est Barthélemy qui a dit ça à son ministre de la Justice. Ce repli était quelque chose de complètement décalé, qui ne faisait qu'aggraver le mal dont il reconnaissait l'existence, si vous voulez, comprenez. C'est-à-dire que quand il y a une querelle qui est en train de s'épuiser, etc., on la réchauffe, on lui l'éteint.
Il y a eu la défaite qui est une défaite et de la France et de la République. Vous ne voulez pas l'entendre. C'est la défaite de la République. La République a été incapable de conduire une politique étrangère cohérente dans toute l'entre-deux-guerres et elle a perdu la guerre. Et donc, elle doit être rayée de la carte et ses soutiens doivent être persécuter comme, je répète, comme la République a fait avec les gens de Napoléon III. C'est la même chose. C'est la même chose.
Sous l'égide de Hitler, ça n'a strictement rien à voir.
Parce que vous savez la suite, Alain.
Mais oui, mais enfin.
Mais pour les Français de l'époque, Hitler, c'est Guillaume II et c'est Bismarck. C'est la même chose.
C'est vraiment les Français de l'époque qui ne voulaient pas voir.
Mais non, les gens ne sont pas surinformés comme aujourd'hui.
L'appel du 18 juin, texte que vous connaissez, sans doute.
Oui. Mais il ne parle pas du nazisme, hein. Il parle de l'Allemagne, il parle de la guerre.
Il commence par ce mot, les chefs. Et les chefs, c'est les chefs militaires.
Oui, eh ben oui, on est
qui n'ont pas su préparer la guerre.
Pas seulement.
On profite de la défaite maintenant pour prendre le pouvoir et demander l'armistice.
Attendez.
C'est ça. C'est l'analyse militaire de la défaite qui est la spécificité de Gaulle et de la France libre, si vous voulez. Et c'est cette analyse qui s'est révélée productive alors que l'autre a enfoncé le pays dans une déprime, un découragement, dans une lâcheté.
Exclusivement gaulliste.
Partiellement déshonoré.
C'est un jugement exclusivement gaulliste. Il faut voir ce qui était à l'époque. Je le répète, les Français ne sont pas prêts à perdre 1,5 million de morts encore une fois. Si on oublie ça, on oublie tout.
Est-ce que c'était la même guerre?
Mais bien sûr, ils ont perdu 100 000 hommes en 3 semaines. Vous rigolez ou quoi? 300 000 hommes en 3 semaines, c'est pas rien ça.
300 000 hommes, oui.
Bon, oui. Deuxièmement, la stratégie de Vichy au départ, c'est... Il faut bien comprendre que les Français, et Pétain et Vichy, essayent de refaire à l'Allemagne ce que les Allemands eux-mêmes nous ont fait par deux fois. La première fois, après la défaite de Iéna, quand la Prusse a été écrasée, ils se sont couchés devant Napoléon, ils ont collaboré, comme on ne disait pas à l'époque, ils ont fait semblant, ils ont finassé, et en douce, ils ont redressé le pays pour préparer la revanche en copiant le régime napoléonien l'armée. Etc. Et sept ans après Iéna, en 1813, ils prenaient leur revanche à la bataille de Leipzig.
Et c'était l'idée de Pétain, ça.
Et sur la table de nuit de Pétain, c'est raconté dans Robert Aron, il y a un livre sur Iéna. Donc vous voyez, c'est ça l'idée fondatrice.
Alors c'est ça l'idée fondatrice, mais je vais vous citer un témoignage à tous deux. Un témoignage qui m'a beaucoup ému d'un auteur extraordinaire, Jean-Louis Crémieux-Briac, qui a écrit La France libre, et son dernier livre, titré admirablement par Pierre Nora, L'étrange victoire, dans son dernier livre, il revient donc sur ce qui s'est passé et sur son arrivée à Londres. Il arrive en septembre 41 parce que il a été prisonnier en Poméranie, il s'est évadé en Union soviétique, incarcéré en Union soviétique et libéré finalement pour arriver en 41. Et quand il arrive, il est gaullo-pétainiste. C'est-à-dire, il épouse complètement la thèse du bouclier de l'épée. Et alors, il va dîner dans un restaurant à Londres, avec Raymond Aron et d'autres. Et évidemment, ses interlocuteurs s'étonnent. Duchesne, ancien de la guerre de 1914, a beau garder une indulgence pour le maréchal, tous s'accordent pour m'expliquer qu'il n'est plus capable de dire non et qu'il ira au bout de la soumission. Je n'ai pas de gîte pour la nuit, Aron m'offre un lit et jusqu'à minuit me fait un cours sur l'histoire de Vichy. 8 jours plus tard, la condamnation à mort à Paris par un tribunal français et l'exécution à la guillotine de 3 patriotes, dont le député communiste Catla, m'emplissent d'horreur. Puis les fusillades d'otages qui se succèdent sans que le maréchal élève la voix. Par honte et par colère d'avoir été abusé, je serai un anti-maréchaliste furieux. Nous sommes en 41. Oui. Donc les choses vont vite et c'est vrai, Pétain pensait peut-être à un moment donné abuser ou tromper les Allemands, mais il s'est engagé avec la collaboration dans la voie de la soumission, et cette soumission est allée très loin.
Deux choses, Alain. La première, quand Crémieux-Briac parle effectivement des exécutions, des otages, etc., il faut savoir d'où ça vient. Ça a commencé uniquement parce que les communistes sont entrés dans la résistance après l'intervention en URSS de l'Allemagne. Avant, ils étaient des collabos, vous le savez très bien, maintenant tout le monde le sait. Et qu'à partir de juin 41, ils sont rentrés dans la résistance et ils ont commencé, le fameux colonel Fabien, à exécuter un soldat allemand, Moser, désarmé dans les rues de Paris. Ce geste a été condamné par le général de Gaulle et par tous les chefs de la résistance. Et c'est cette méthode-là qui a entraîné les représailles, etc. Ça, c'est une première chose qui, je crois, doit être dite. Deuxièmement, oui, Pétain a été entraîné, oui, je suis d'accord, sa technique de la dissimulation et essayer de rouler les Allemands n'a pas fonctionné. Enfin, n'a pas complètement fonctionné, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il faut bien comprendre que ceux qui sont les partisans d'une vraie collaboration, d'une vraie soumission à l'Allemagne, c'est-à-dire les collabos à Paris et non pas à Vichy, n'ont pas de mots assez durs pour Pétain, qui justement essaye de ménager la chèvre le chou, qui essaye et qui passe son temps avec l'ambassadeur américain qui va tous les jours le voir. Pour les collabos de Paris, pour les Rebattais, pour tous ces gens-là, Pétain est l'homme des Américains. Il fait comme en 17, il attend les Américains. Et d'ailleurs, il est complètement manipulé par l'ambassadeur américain en France, les AI. Donc si vous voulez, voyez, c'est pas aussi simple qu'on ne le croit aujourd'hui.
Paul Thibault.
Mais bien sûr, c'est pas aussi simple. Mais il n'empêche, si vous voulez, que la pente est très claire. Si vous voulez, la pente, elle va du défendable à l'indéfendable, à l'inexcusable. En définitive, c'est le pouvoir de la milice. C'est comme ça que ça se termine, avec Darnan, etc.
Les derniers jours. La milice, c'est la réponse aux communistes, voyons.
Les derniers jours, c'est pas la réponse aux communistes, c'est la réponse aux gaullistes, enfin. À la fin de 1944, écoutez, c'est
d'un. En 1944, vous allez pas me dire que Pétain a encore le pouvoir.
Écoutez.
Vous allez pas me dire ça, quand même.
Il n'a pas de pouvoir, je vous l'accorde, mais il couvre ces gens-là. Il ne les a jamais publiquement dénoncés.
Que vous me disiez qu'il y ait une erreur majeure de Pétain, c'est en novembre 42 de ne pas aller en Algérie.
Par exemple.
D'ailleurs, Robert Aron le dit lui-même.
Par exemple.
Et ça, c'est son erreur. Parce qu'il
Vous comprenez,
l'avocat de Pétain. J'essaye de comprendre la situation et sans les leçons de morale. C'est vous-même qui nous avez conseillé ça. Donc moi, je ne donne pas de leçons de morale, j'essaie de comprendre la situation et je vois ce qu'il a essayé de faire en réussissant et en échouant.
Écoutez, ce qui est clair, c'est que il ne s'est jamais dégagé de son erreur de diagnostic.
C'est ce qu'a dit
De Gaulle. Il est resté enfermé dans son choix, dans son choix de la défaite, et il est mort là-dedans, et ça l'a amené au pire. En réalité, le problème, c'est celui de l'égocentrisme sénile chez Pétain, si vous voulez. C'était quelque chose de très étrange, si vous voulez. Ça, c'est les mémoires de guerre. Hein. Les événements offraient à ses dons et à son orgueil l'occasion tant attendue, à condition qu'il acceptât le désastre comme pavois de son élévation, si vous voulez. Le problème, c'est il y a quelque chose chez Pétain. Quand Franchet d'Espéret est mort, il a dit maintenant le maréchal c'est moi. Ça dit quelque chose.
Absolument.
Sur un personnage qui est complètement, à mon avis, accablant.
Cher Paul Thibault, vous croyez vraiment que le général de Gaulle n'était pas égocentrique, n'avait pas d'orgueil et n'était pas narcissique?
Non, il n'avait pas.
Excusez-moi.
Est-ce que c'est l'orgueil pour soi ou l'orgueil pour son pays?
Pour De Gaulle, la France, c'était lui.
Bien sûr que si.
Vous pouvez pas.
Claude Mauriac lui-même le dit.
Vous êtes en train de déformer ça. C'est même scandaleux là ce que vous dites.
Mais pas du tout. C'est pas scandaleux.
Vous êtes scandaleux. Vous comprenez? Il y a un orgueil, si vous voulez, l'orgueil napoléonien ou l'orgueil de celui qui fait, l'orgueil du grand artiste, l'orgueil de etc. Du grand homme politique, l'orgueil de Clémenceau, etc. D'accord. Mais c'est pas la même chose que l'égocentrisme du type je vais profiter de la défaite pour apparaître, pour monter sur le pavois.
Écoutez-moi.
C'est ça qui est scandaleux. Se faire de la défaite un marchepied, c'est quelque chose de... C'est l'essence du pétainisme et c'est inexcusable.
Excusez-moi. Louis XVIII, dans ce cas-là, est inexcusable. La Troisième République est inexcusable, puisqu'elle fait de la défaite de 70 le marchepied pour abattre Napoléon III. Et donc, excusez-moi, c'est la même chose. C'est l'histoire de France depuis 200 ans.
Et la politique de Gambetta en 1870, c'est une politique de capitulation?
Non, mais il a perdu.
Allons.
Mais il a perdu.
Mais il a fait la guerre, quand même.
D'accord. Il a fait la guerre, il a aggravé le sort de la France. Pourquoi vous ne critiquez pas Gambetta? Il n'y aurait pas eu l'Alsace-Lorraine en moins s'il y avait Gambetta.
Gambetta s'est peut-être trompé.
Gambetta
s'est peut-être trompé, mais en tout cas, le sens de son action n'était pas de profiter de la défaite pour installer la République.
Le 4 septembre, les Républicains profitent de la défaite et de l'emprisonnement de Napoléon III pour proclamer la République.
Mais vous faites sans cesse des analogies.
Mais parce que c'est fondamental. Oui. Parce que eux le font, vous comprenez.
Eux le font.
Sinon, on ne comprend rien à ce qu'ils font.
On ne comprend rien, mais comme disait Valérie, l'histoire est la science des choses qui ne se répètent pas. La Deuxième Guerre mondiale ne répète rien. Hitler ne répète pas Bismarck. Il y a quelque chose d'inouï dans ce qui s'est passé.
Non, mais je suis pas d'accord.
Si vous pouvez dire que Hitler, c'est la perpétuation de la politique allemande, alors là, je pense.
Alors je vais vous dire,
Vous vous trompez largement.
Je vais vous répondre, Alain, si vous me permettez.
Oui.
Premièrement, c'est De Gaulle lui-même qui parle de guerre de 30 ans, 14-45. Deuxièmement, et je vais vous montrer que Hitler n'ajoute
ça ne prouve rien.
Ah bon,
ça prouve qu'il y a une continuité. Ben mais
oui,
pas
que c'est la même guerre.
C'est la même chose.
C'est la même guerre. Deuxièmement, attendez, vous permettez. En 1920, Jacques Bainville écrit Les conséquences politiques de la paix.
Que nous avons tous lu. Qui est un livre prémonitoire, exceptionnel.
Prophétique.
Absolument.
Où il annonce tout.
Sauf Hitler.
Non, mais attendez. Laissez-moi finir. Justement. Sauf Hitler, vous avez raison. Évidemment, c'est normal qu'il annonce pas Hitler parce qu'il ne le connaît pas. Sauf que ça prouve bien qu'il n'y ait Hitler ou qu'il n'y ait pas Hitler, il y aurait eu la guerre en 40, il y aurait eu l'Anschluss en 38, il y aurait eu la remilitarisation de la Rhénanie, et il y aurait eu tout ce qui s'est passé. Hitler n'ajoute qu'un élément de folie dans cette guerre hyper rationnelle. Et moi, je pense, et j'essaye de raisonner comme eux, je ne raisonne pas en fonction des idéologies. Je pense, comme De Gaulle, que c'est les nations qui se sont affrontées, derrière Staline, il y a la Russie, que derrière Hitler, il y a l'Allemagne, et que derrière Pétain et De Gaulle, il y a la France.
Moi, je pense, comme Bernanos, qu'en 40, s'est déclenchée la guerre des races contre les nations. Et c'est un élément extrêmement différent.
Pas du tout. Je suis pas d'accord.
Et Éric Zemmour, vous faites aussi des parallèles. Il y a cette analogie et des parallèles. C'est-à-dire, vous dites, Pétain est un féodé à l'Allemagne, et De Gaulle est dépendant de l'Angleterre, comme si c'était la même chose que de se laisser bouffer par Hitler et de vouloir
encore
faire alliance avec Churchill.
Vous faites de l'idéologie et la morale. Moi, je parle uniquement en termes stratégiques, c'est-à-dire en termes de nation réelle politique. Pour De Gaulle, vous savez, il y a ce mot de Bidault que je cite, qui est dans Claude Mauriac, et qui dit, Bidault dit, il y a deux choses que De Gaulle déteste le plus au monde, c'est les alliés et les résistants. C'est le mot de Bidault. Vous direz ça au fils de Mauriac, moi j'en sais rien. C'est Claude Mauriac qui le raconte. Mais c'est Bidault, c'est Claude Mauriac qui le raconte. C'est Claude Mauriac qui le raconte, monsieur Thibault. C'est pas moi.
Je le crois.
Attendez, je finis. Ce que je veux dire, c'est que pour De Gaulle, comme pour Pétain, il y a des nations. Vous savez bien, De Gaulle croit aux nations. Et il souffre beaucoup de sa soumission à l'alliance avec les Anglais et avec les Américains. On le sait, il en souffre. Quand les Américains lui coupent l'essence à ses troupes, il en souffre. Il est soumis à cette alliance.
Il dit, la France n'est pas seule, la France n'est pas seule, la France n'est pas seule. Il le répète trois fois dans l'appel du 18 juin.
Il a compris que la guerre allait continuer et il veut essayer, avec grande habileté, de garder la France dans le camp des vainqueurs. C'est un coup de...
Des vainqueurs,
un coup de poker.
C'était,
mais
que
ça n'a pas complètement
le
marché.
Camp des démocraties.
Mais c'est ce que je vous dis. Qu'on n'est pas d'accord. Pour moi, Staline, ce n'est pas vraiment le camp des démocraties, cher Alain.
Avec les États-Unis. Et vous osez dire que le plan Marshall, c'était une forme de suggestion.
Oui, absolument. Je le dis.
Qu'ils n'y ont pas eu droit. Ils ont vécu dans la pénurie parce qu'ils n'y ont pas eu droit.
Mais je le dis quand même.
Vous
avez la suggestion dans l'abondance. Ça existe.
Vous opposez le réalisme politique à l'idéologie. Le réalisme politique s'intéresse aux nations. Et je suis d'accord avec vous, si vous voulez. Mais qu'est-ce qu'on met dans le mot « nation » pour Pétain, c'est uniquement un objet matériel. Il s'agit de protéger la population française de la violence ambiante. Et puis, la nation n'a aucun contenu moral. Mmh. Il est évident que pour De Gaulle, je dirais, la nation a une âme. C'est-à-dire que c'est un vouloir exister, c'est un projet historique, c'est une ambition, toutes sortes de choses à quoi Pétain a complètement renoncé. Alors, après, évidemment...
C'est de la moraline, tout ça.
Ils se sont...
Non, c'est de la moraline, pas du tout. Et pourquoi vous pensez que Brossolette et Trigny-Briac sont venus chez De Gaulle par réalisme?
Parce que s'il n'y a plus de territoire français et s'il n'y a plus d'État français, il n'y a plus de grandeur française et de morale française et de valeur française. Il y a d'abord les conditions matérielles.
Mais bien sûr, il n'y a plus d'État français, dont c'est Brazzaville, comme vous le savez, et il faut en refaire un. Et il commence avec un tout petit caillou qui est reconnu par l'Amérique,
qui est reconnu par toutes les puissances, qui est obéi par tous les fonctionnaires, que ça vous plaise ou non, il y en avait un. Et c'est ce qui a permis à De Gaulle de déployer sa force de son côté. L'un ne va pas sans l'autre.
Le coup de génie, c'est de comprendre que cet État, il est bidon.
Ben non.
Il n'existe pas.
Roosevelt n'a pas compris ça, alors excusez-moi.
Il n'existe que matériellement. Roosevelt n'a rien compris.
Ah bon,
c'est évident. Et l'amiral Lee, qui était l'ambassadeur à Vichy, encore moins.
Personne n'a rien compris. Alors.
Si, Éric Zemmour, c'était pas un État bidon, peut-être, mais en tout cas, il y avait une pathologie de la souveraineté dans cet État. Revenons à la question.
C'est du sous-Paxton.
Alors d'accord, c'est du sous-Paxton.
Bah, oui,
c'est dit par beaucoup d'historiens.
Bah, oui, je sais, alors, mais ils sont tous
attendez,
des sous-Paxton.
Attendez, puisque vous me dites que je fais du sous-Paxton, la moutarde me monte au nez.
Allez-y.
Et je vais essayer de vous répondre. Venons-en à la rafle du Veldiv.
Ouais.
Venons-en, après le statut des Juifs, à la collaboration de Vichy à la solution finale. C'était une victoire pour Laval et Bousquet que de signer les accords stipulant que la police française procéderait aux arrestations de 27 000 Juifs, étrangers ou apatrides, à Paris. Parce que jusqu'à présent, les Allemands n'étaient pas disposés à confier la tâche de répression à la police française dans la zone occupé.
Merci,
et leur revirement est interprété à Vichy comme la reconnaissance par l'occupant de la souveraineté française. Le grand plaisir, si vous voulez, et ça n'a pas été dit que par Paxton. Ça a été dit aussi par Marc Ferraud.
Mais tout ça, c'est du sous-Paxton.
Alors, laissez-moi vous lire un texte sous-Paxton de Laurent Joly.
Laurent Joly, c'est un sous-sous-Paxton.
Alors, c'est l'image de la France tout entière que Laval et Bousquet ont atteinte en mettant notamment au cœur de la rafle parisienne la figure si familière du gardien de la paix dont la vocation, la raison d'être est de préserver la paix publique, pas d'arrêter les innocents. Bon. Et si vous me dites qu'ils ont sauvé les Juifs français en livrant les Juifs étrangers, c'est contraire à la tradition française d'asile et d'hospitalité. Et ça, à Londres, même André Philippe l'a dit.
Est-ce que je peux répondre?
Oui.
Bon. D'abord, premièrement, tout ce que vous avez dit, c'est la thèse de Paxton, que je réfute en vrac. Et je vais essayer de répondre.
Paxton.
Si, parce que c'est important. Non, Alain.
S'en fout de Paxton.
Non, parce qu'avant Paxton, les historiens français disent le contraire.
Non.
René Raymond dit le contraire et Robert Aron dit le contraire. Alors, vous voyez qu'il y a deux écoles. Alors, attendez. Premièrement.
Et que disent les Juifs arrêtés par la police française?
Laissez-moi finir. Premièrement. Quand un pays perd la guerre, son administration et donc sa police sont soumises aux vainqueurs. Donc ce n'est absolument pas une victoire, comme dit Paxton et comme vous reprenez, que de penser que l'utilisation par l'Allemagne de la police française est une preuve de souveraineté. Pas du tout, c'est une preuve au contraire de la défaite française. Ça se fait depuis que le monde est monde et à chaque fois, les occupants, les vainqueurs ont le droit de vie ou de mort sur l'État soumis par ses armées. Deuxièmement, quand on explique que c'est terrible d'utiliser la police française. Je vous rappelle que vous avez dit vous-même, vous avez parlé de 27 000 Juifs, vous savez qu'il n'y en a eu en fait que 15 000, je crois, d'arrêtés. Justement, parce que beaucoup de policiers français sont arrivés avant et ont dit « on va vous arrêter, sauvez-vous ». Troisièmement, j'ai eu entre les mains la feuille de route de la rafle du Veldiv, sortie par un ami de la préfecture de police de Paris. Vous savez ce qui est écrit? C'est exactement la même procédure que pour les expulsions d'étrangers. en état irrégulier. Oui, exactement. Eh oui. Avec les nationalités, ben voilà. Etc. Donc vous voyez bien que c'était, ça ne concernait que les étrangers. Et d'ailleurs, ça énervait beaucoup les Allemands.
Certains.
Attendez. Là aussi, il faut revenir dans le contexte. Il faut revenir dans le contexte d'une très forte immigration juive d'avant-guerre qui a ulcéré beaucoup de Français et beaucoup de Juifs français, et que la population, s'il y avait eu un sondage en 42, je suis pas sûr que les Français auraient voté pour les traditions d'asile, mon cher Alain, parce que il y avait eu beaucoup de problèmes dans les années 30, beaucoup de marchés noirs, beaucoup de concurrence, et on imputait ça aux Juifs venus de l'Est.
C'est pas tout à fait la même chose d'expulser les gens pour qu'ils rentrent chez eux et de les envoyer dans les camps de la mort.
Mais ils ne pensaient pas qu'ils les envoyaient dans les camps de la mort.
Ils savaient que c'était la déportation. Non. Ils savaient que c'était de la déportation. Foutez pas de moi, quand même.
Alors, expliquez-moi, Alain, pourquoi, quand un Américain appelle Laval à la veille de la rafle et qu'il lui dit « Vous ne devez pas faire ça », et que Laval lui dit « Prenez-les aux États-Unis », pourquoi il les refuse ? Alors, vous voyez,
c'est la politique américaine.
Vous voyez qu'il n'y a pas que les Français. La conférence d'Évian en 1938, personne ne les a voulu.
Vous parlez d'Évian, vous avez tout à fait raison.
Ah, merci.
C'est en France qu'on a accueilli
le plus.
Plus ou moins bien, d'ailleurs, le plus de Juifs venant d'Europe de l'Est et même d'Allemagne.
Et je cite le texte de Heilbronner, le président. Les Juifs français sont inquiets et sont furieux contre cet accueil trop généreux.
Mais le problème, comprenez, c'est que c'est toujours pareil. C'est-à-dire que vous jugez toujours rétrospectivement.
Ah non, c'est vous qui faites ça. Moi, justement, j'essaie de comprendre l'époque.
Et vous montrez qu'il y a des logiques qui ont amené à ces décisions catastrophiques, parce que ça a quand même été une compromission pour la police française et l'État français absolument lamentable. Et si... Il y a eu un sabotage, heureusement, des gardiens de la paix parisiens.
Certains gardiens de la paix, bien sûr.
Moi, on trouverait tous des témoignages. On en connaît, des témoignages, de gens qui ont été sauvés comme ça.
Mais monsieur Thibault,
il y a des gens qui ont été sauvés. Juifs ont été sauvés, non pas grâce à Vichy, mais malgré Vichy.
Vichy. Et ces gens-là, ces policiers qui ont été courageux, ils savaient bien que c'était pas pour leur bien qu'on les arrêtait. Ils ne savaient pas très bien où, ils savaient que c'était le pire.
Monsieur Thibault, il faut voir ce qui est comparable. Regardez dans les autres pays où il n'y a pas Vichy, où il n'y a pas Pétain, où il n'y a pas la police française, où il y a un Gauleiter en Pologne, où il y a en Hollande des gens qui manifestent contre la politique juive allemande. Dans tous les pays où il n'y a pas d'État, c'est un massacre. Et là, c'est 80 à 90% des Juifs, qu'ils soient français ou locaux, qui sont exterminés. En France, il y a seulement 11% des Juifs français qui sont enlevés. Et encore, ils sont arrêtés en 44 quand justement Vichy n'a plus de rôle. Oui. Parce que vous voyez, c'est ça la contradiction des jolis et de tous ces gens qui se contentent de décalquer Paxton depuis 40 ans. C'est qu'ils nous disent que ça aurait été pire, que ça aurait été mieux sans Vichy. Hein, mais qu'après, ils disent ça. C'est Paxton qui dit ça, il se dit sous ça. Mais après, il nous explique que les Juifs...
Paxton ne dit pas ça.
Si, il dit que ça aurait été pire sans Vichy.
Je citerai Georgette Elger.
Ah, mais c'est pas la même chose.
Qui, étant passé en zone sud à 16 ans, elle raconte, et ça a été pour moi un grand soulagement. Mais maintenant, j'aimerais mieux que ça n'ait pas existé en tant que Française.
Ah, alors, et ça, c'est très intéressant.
Je pense que c'est tout à fait remarquable.
Parce que ça veut dire que finalement, et c'est un paradoxe presque indicible, la politique de Vichy a protégé les Juifs français et en abîmant la France.
Non.
Mais si, c'est le paradoxe.
La politique de Vichy a eu des effets secondaires qui ont été positifs, incontestablement. Je l'ai déjà dit, et ça on doit le dire parce que c'est vrai.
Vous êtes d'accord avec moi, Paul Thibault, vous pensez que quand les Juifs français ont été sauvés, c'est par des Français, c'était pas sur ordre de Vichy.
Je ne suis pas d'accord avec vous.
Vichy
a refusé l'étoile jaune, par exemple, dans la zone libre.
Oui.
C'est des exemples tout bêtes. À partir de 43, le Pétain refuse la dénaturalisation des Juifs naturalisés en 27. Et c'est ça que les Allemands attendaient autant.
Sur pression de l'Église catholique, là.
Je suis d'accord.
Mais il n'a pas été.
Mais alors, il l'a fait quand même.
Il l'a fait quand même.
C'est tout. Et regardez, même Laval, qui n'est pas du tout antisémite, contrairement à Pétain. Alors vous voyez, Laval n'est pas du tout antisémite, on est d'accord là-dessus. Donc,
oui, mais il va très loin dans la collaboration.
Mais pourquoi ?
Pour les raisons que j'ai dites et que vous
récusez. Non, pour le pacifisme, pour la paix. C'est le graphe, c'est le livre de Simon Epstein, admirable, le paradoxe français. C'est que ces gens-là viennent du pacifisme, souvent de la gauche.
Oui,
Laval est fils de Briand. Et ils se soumettent, ils font des horreurs, alors qu'au départ, ils ne sont pas antisémites, uniquement parce qu'ils veulent la paix. L'Europe allemande.
Mais oui, c'est aussi les effets de Munich.
C'est trop tard, Alain.
Mais oui, d'accord. Le pacifisme, si vous voulez, peut-être peut mener au pire.
Oui,
voilà
évidemment.
Aussi une des leçons
pas du contraire. Je vous rappelle le début de notre conversation. Le pacifisme né de 14 est né de 1,5 million de morts.
Oui, oui.
Dans un pays qui ne fait plus d'enfants depuis le 19e siècle. Donc, il faut se remettre tout ça dans le contexte quand même.
Mais il y a des gens qui continuent le combat et auxquels nous sommes infiniment redevables.
Ils sont des
qui
héros,
peuvent rester pour nous
ils sont
des phares
mais bien
et
sûr,
des exemples.
Mais bien sûr. Mais ça, c'est moral. Ce n'est plus du réalisme stratégique.
Je pense que peut-être le fond de notre divergence, pour dépasser un peu la discussion, si vous voulez, c'est votre idée, c'est le titre de votre bouquin, Le Destin français. Vous êtes un franco-pessimiste, un décliniste fondamental. Vous pensez que quand la France, qui aurait pu dominer l'Europe, qui était partie pour
sous
Richelieu et Mazarin, à cause d'ailleurs des erreurs de Louis XIV en particulier, etc., a changé. A perdu la main,
les Anglais qui ont coalisé l'Europe contre la France.
Laissons.
Ah bah c'est maintenant, le diagnostic est important.
Au XVIIIe siècle, la guerre de 7 ans a été une catastrophe.
Ah oui, ça on est d'accord, mais c'est plus Louis XIV, c'est Louis XV.
Napoléon n'a pas relevé les choses.
Au contraire,
De façon stable.
Je ne suis pas d'accord avec
stable.
Ça. Pas du tout. Ah, pas de façon stable.
Depuis Waterloo, on est toboggan. Alors, je pense que c'est complètement... Alors là, je suis complètement... en désaccord contre ça. Parce que qu'est-ce que c'est que les mots gaulliens, compter, signifier et éclairer d'un certain côté. Je pense que le rôle de la France au XIXe siècle, dans l'invention de la démocratie, la mise au point de la démocratie, a été absolument fondamental. Nous sommes la première grande nation à avoir pratiqué le suffrage universel. Bien avant les Américains avec leur esclavagisme, etc. Et bien avant les Anglais, qui sont arrivés très tard, si vous voulez.
Mais
après.
Excusez-moi, nous avons une différence d'approche. Pour moi, ce qui compte, c'est l'hégémonie de la France sur l'Europe. C'est la démocratie. Chacun, objectif.
Vous avez une idée vraiment très matérielle de la grandeur.
Vous savez, sans le matériel, il n'y aurait pas l'âme.
Sans
la grandeur française, les droits de l'homme, c'est porté par la meilleure armée du monde.
Oui.
Et aujourd'hui, sans la puissance de l'Amérique, vous n'avez pas l'idéal américain.
Oui,
mais excusez-moi, si ce pays était en décomposition depuis Napoléon, pourquoi au XIXe siècle a-t-il montré la voie à l'Europe extrêmement souvent
De la même manière,
la question juive, l'affaire Dreyfus, nous sommes le pays, l'antisémitisme est répandu partout.
Oui.
Le pays où l'antisémitisme a été ouvertement combattu et défait.
Je suis obligé de vous interrompre sur cette bonne défaite, l'antisémitisme défait. Excusez-moi, j'aurais voulu continuer, mais on me fait signe dans la cabine, nous sommes en direct. Il me faut d'abord rappeler le titre du livre d'Éric Zemmour, Destin français. Il est publié chez Albin Michel. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Demeurer ou partir ». Mes invités seront François-Xavier Bellamy et Sylvain Tesson. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et François Connac. À la technique aujourd'hui, Jean-Ghislain Meige. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.